Bonjour.
Tous les cinémas du monde.
Charmant, je suis.
Qu'est-ce qui m'amuse, c'est de jouer pour autre chose.
Si vous n'aimez pas la mer, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Si vous n'aimez pas la montagne,
dans la vie, on partage toujours la mer, jamais le pognon.
Si vous n'aimez pas la ville,
moi, je suis pour la beauté morale. Et la beauté morale, tu ne la trouves que chez les moches.
Allez vous faire foutre.
Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bonjour à toutes et tous. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth.
C'est un monument du cinéma qui vient de disparaître à l'âge de 88 ans. La France pleure Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo qui, en 60 ans de carrière, avait tourné plus de 80 films qui embrassent tout le spectre du cinéma. De la nouvelle vague aux grandes comédies populaires, Cartouche, L'Homme de Rio ou encore L'As des As. Trésor national français, c'est ainsi que le communiqué de l'Élysée qualifie Jean-Paul Belmondo. Adieu le magnifique, écrit Claudia Cardinal, qui lui donna si souvent la réplique. C'est à cette grande figure du cinéma français que nous consacrons cette émission avec notre invité, le critique Jean-Michel Frodon. Bonjour.
Bonjour.
Nous reviendrons aussi sur la Mostra de Venise avec vous, Sophie Torlotin, à quelques heures du palmarès. Un festival se termine, un autre commence et a annoncé sa sélection. C'est le FESPACO qui se tiendra cette année du 16 au 23 octobre prochain. Alex Moussa Sawadogo, son délégué général, son nouveau délégué général, nous a accordé une interview exclusive. Nous l'entendrons en fin d'émission. Mais pour l'heure, nous sommes en ligne avec l'acteur et réalisateur ivoirien Sidiki Bakaba. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Sidiki Bakaba, vous avez été le complice d'évasion de Jean-Paul Belmondo dans Le Professionnel de Georges Lautner. Quel souvenir vous garderez de lui, Sidiki Bakaba?
Je garde le souvenir d'un homme qui a donné de lui-même entièrement au spectateur et à ce métier qu'il aimait beaucoup. Il venait me chercher le matin, dès qu'il m'a vu. Tout de suite, on tournait d'ailleurs en Camargue. Oh, petit frère, tout de suite, ça m'a fait quelque chose. On est en 81, c'était pas fréquent, et même aujourd'hui, c'est pas fréquent qu'un occidental qui te voit pour la première fois, tu dis, mon petit frère, il y a une timidité, il y a une histoire de culture, que voilà, en Afrique, on te dit facilement, un aîné, ça fait petit frère. Ça m'a frappé parce que c'était un monstre sacré que je voyais qu'à l'image, que je n'ai jamais pensé que j'allais rencontrer dans ma vie. Et ben oui, j'ai eu la chance, et c'est fini. Il l'a dit, et il a eu ce comportement, et comme on dit chez nous, les Soninkés, que la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire.
Et c'était quel type d'acteur ?
Mais Jean-Paul s'est montré un frère, un grand frère, durant tout le tournage. Il vient me chercher, allez, on va courir. On court, et quand je vais lâcher, il me dit, mais non, n'abandonne pas, c'est qui? Dans la vie, il ne faut jamais laisser. Tu es fait pour ce métier, toi, il faut que tu accroches.
Sidiki Bakaba, merci beaucoup pour cette évocation de Jean-Paul Belmondo, donc qui a été votre compère et complice d'évasion, je le disais, dans Le Professionnel de Georges Lautner. Merci beaucoup.
Merci.
Je vais mourir?
Oui. T'as peur?
Non. Pourquoi?
Parce que moi, j'aurais peur.
Parce que toi, tu irais en enfer.
Tous les cinémas du monde.
Je le disais, la France entière pleure Jean-Paul Belmondo. Un hommage national lui a été rendu ce jeudi aux Invalides. Et le jour de sa disparition, le monde politique français, enfin réconcilié, a rivalisé d'hommages, sans parler de ses partenaires de jeu qui ont tous célébré, à l'instar de Sidiki Bakaba, sa gentillesse, sa générosité, sa vitalité et sa bonne humeur. Jean-Michel Frodon, vous êtes critique de cinéma. On peut vous lire, entre autres, dans les quotidiens en ligne Slate et AOC. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres de référence sur le cinéma français. Que perd le cinéma français, justement, avec Jean-Paul Belmondo?
Ah, je crois qu'il ne perd rien, le cinéma français. C'est-à-dire que Jean-Paul Belmondo a été une figure très importante, très significative, dont il convient évidemment de considérer la place majeure qu'il a occupée à plusieurs titres, de plusieurs manières, à la fois sur les écrans et dans l'imaginaire des spectateurs français. Mais ce qu'il a été était terminé. Aujourd'hui, enfin, au moment de sa disparition, nous parlons de quelqu'un dont ce qui a construit sa gloire, l'admiration, l'affection, on peut dire, des Français en général. C'est ce que vous disiez, Elisabeth, à propos de la réconciliation qui a l'air de se faire autour du personnage, concerne pour l'essentiel un cinéma qui a fini de se faire il y a déjà presque 30 ans. Et donc, nous avons affaire à une grande figure d'un moment. Ce moment a continué à avoir des effets, puisque nous, les spectateurs de ces films, sommes toujours là. Mais
on n'attendait
pas demain quelque chose de Jean-Paul Belmondo, de nouveau, qui allait, en quelque manière, changer l'idée et l'image que nous avons de lui.
Alors, la place majeure de Jean-Paul Belmondo, on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Jean-Michel Frodon. Mais pour l'heure, on fonce sur l'autoroute des 60s, au volant, avec Michel Poicard.
Si vous n'aimez pas la mer... pas la montagne. Si vous n'aimez pas la vie, allez vous faire foutre.
New York Herald Tribune.
Patricia.
Je voudrais comme serait Romeo et Juliette.
Oh là là.
Qu'est-ce qu'il y a, Michel?
Je suis un grand boxeur.
La bande-annonce d'À bout de souffle, donc 1960, un film qui va pulvériser tous les codes du cinéma et lancer comme une fusée la carrière de Jean-Paul Belmondo et puis accessoirement de son réalisateur Jean-Luc Godard. Alors dans À bout de souffle, je le disais, Belmondo c'est Michel Poicard, un voyou désinvolte et séduisant. Ce n'est pas son premier rôle au cinéma, mais c'est le rôle qui va le faire exister aux yeux du grand public.
Et je pense avec Godard, ça a été une rencontre formidable parce que j'ai gagné... en tout cas énormément de temps dans ma carrière. Parce que du jour où j'ai fait À bout de souffle, ça a été comme dans les romans de Midinette, quoi. Mm-hmm. Le téléphone a pu arrêter de sonner. Je faisais 6-7 films par an. J'allais en Italie, je me retrouvais avec Ginello Brigida, Sofia Loren, Claudia Cardinale. Quand vous êtes un petit acteur qui jouait dans des théâtres, modestement, disons, bon, c'est le rêve. Hein. Mm-hmm. J'ai vraiment eu un conte de fées.
Un conte de fées. En fait, il a eu du flair et pas mal d'audace, Belmondo, pour se lancer dans ce projet. Je crois que son agent lui avait dit « si tu le fais, ce sera la plus grande erreur de ta vie. En gros, avec ce petit Godard inconnu, tu vas ruiner ta carrière. »
Tout à fait. Il a eu cet instinct, hein, cette vista, on pourrait dire, mais qui correspond à quelque chose de tout à fait réel, mais que visiblement cet agent, comme beaucoup de gens à cette époque-là, n'avait pas bien perçu, et qui tourne autour du double sens de la formule nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est deux choses à la fois. C'est un grand mouvement générationnel au tournant des années 50 et 60, qui change le comportement d'une génération qui arrive dans la lumière dans tous les domaines. C'est Belmondo, on peut le rapprocher de Johnny, par exemple, ou de gens comme ça. Et ça a à voir avec des manières de se comporter, des manières de parler à ses parents, des manières de s'habiller, la musique qu'on écoute, etc. Et la nouvelle vague, c'est la traduction au cinéma d'un changement de société. Et Belmondo l'incarne immédiatement, physiquement, avec cette désinvolture, ce côté provocant, joyeux, qui veut aller de l'avant. Et donc, il est nouvelle vague, à ce sens-là, qui est d'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Nouvelle Vague, qui raconte exactement ça. Et nouvelle vague, c'est autre chose. C'est un moment très particulier de réinvention du langage cinématographique, dont Godard est évidemment la plus grande ou une des plus grandes figures. Et il se retrouve dans À bout de souffle, au croisement de ces deux idées de nouveauté, de modernité, une qui est intérieure au cinéma, dont Godard est un des chefs de file, et une qui est propre à toute la société et qu'il va continuer à incarner dans des films très très différents ensuite.
Et à bout de souffle, cartonne au box-office. Hein. Je crois que c'est 2 millions d'entrées. Alors je sais pas, même à l'époque, c'est quand même beaucoup pour un film effectivement d'auteur, d'un réalisateur qui n'est pas connu comme il l'est évidemment aujourd'hui.
Et puis avec une écriture si particulière à laquelle on peut imaginer que le public n'est pas du tout habitué à l'époque.
Tout à fait. À bout de souffle est le film qui marque les esprits, qui est innovant dans plein de domaines, qui a cette espèce d'insolence de la jeunesse qui se retrouve aussi bien dans le personnage, on l'a entendu, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu À bout de souffle et à qui on ne peut que recommander de le faire, d'aller le voir dès qu'ils pourront. Quand il dit « si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne », il s'adresse à la caméra, il s'adresse au spectateur. Donc c'est un acte de transgression qui tout d'un coup prend acte. Il y a une caméra en train de filmer au milieu de... C'est un petit gangster qui part de Marseille pour remonter vers Paris, qui va tuer des policiers juste après. Donc on est dans des situations qui ne sont pas réalistes. L'autre chose, c'est qu'il est fasciné par le cinéma américain, il imite Humphrey Bogart, etc. Donc c'est aussi un film d'amour du cinéma et d'un certain cinéma d'action à ce moment-là. Et il y a tout ça d'un seul coup, et effectivement, le public, un public large à ce moment-là, va être attiré, séduit, intrigué par ce qu'est À bout de souffle, c'est-à-dire d'abord... Il faut quand même le dire, un film de Jean-Luc Godard, mais aussi cette apparition extraordinaire de Jean-Paul Belmondo et dans une large mesure également de Gene Seberg, sa partenaire à l'écran.
Alors les années 60, elles vont être... elles commencent de façon flamboyante avec À bout de souffle et puis elles vont continuer à une vitesse effrénée. Il continue à tourner, il va tourner encore 2 films avec Godard, Belmondo, donc Une femme est une femme et puis Pierrot le fou en 65. Donc là, je crois d'ailleurs que sa carrière est tellement bien lancée qu'il le fait vraiment par pure reconnaissance à l'égard de Godard. Et puis voilà, enfin, il ne tourne quasiment que de très bons films dans les années 60, pour ne pas dire des chefs-d'œuvre, Classe tout risque avec Claude Sauté, Jean-Pierre Melville, hein, il faudrait le citer, il est face à Emmanuel Riva, prêtre révolutionnaire dans Léon Morin, prêtre, et puis viendra le Doulos, l'aîné des Fers Chauds. Et là, ce qui est étonnant, c'est que quel que soit le film dans lequel il joue, il imprime sa marque de façon très, très impressionnante. À chacun de ces personnages.
C'est tout à fait vrai. Je ne partagerai pas votre avis qu'il tourne pratiquement que des chefs-d'œuvre et qu'il tourne énormément. Et dans l'eau, il y a beaucoup de films oubliables.
Mais c'est quand même sa meilleure décennie.
Oubliés, mais c'est sa meilleure décennie. C'est-à-dire que parmi cette avalanche de films, il y a ce que vous venez de citer, Elisabeth, et qui sont effectivement des films importants et mémorables, et puis d'autres qui le sont moins. Mais ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'il se construit le personnage de Belmondo, cette forme de présence à l'écran, ce mélange qui vient à la fois d'une énergie, d'une jeunesse qui est éclate, qui explose à cette époque-là dans bien des domaines de la...
Il y a ce côté Marlowe sympa, en fait. C'est à la fois un voyou, mais tout le monde... Enfin, on l'aime bien.
Il y a de ça, c'est un séducteur, hein, c'est un charmeur.
Il y a de l'humour aussi, peut-être.
Avec beaucoup d'humour. C'est aussi quelqu'un donc, qui vient du théâtre, qui a passé beaucoup de temps dans les écoles de théâtre, qui voulait faire du théâtre. C'était ça, sa première vocation. Il a eu un peu de mal, mais qui a aussi le sens du show, le sens de la scène, le sens de la réplique ou du geste ou du regard qui font mouche et qui trouve à fabriquer, disons, le personnage Belmondo qui va ensuite, être omniprésent, c'est-à-dire que un peu quel que soit le film qu'il fera, ça sera toujours Belmondo. Et on ira éventuellement voir le nouveau Belmondo plus qu'un film de Lautner ou de Enrico ou de Philippe de Broca. Et on ira éventuellement plus voir le numéro de Bébel que ce qui arrive à tel ou tel personnage qu'il va être amené à interpréter.
Alors, on parle souvent du duo des frères ennemis, bien sûr, hein, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon. Ce dont on parle moins, c'est de cette espèce d'effet miroir, de passage de témoin entre Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Il me semble que c'est important, ne serait-ce que pour expliquer la nature de ce qu'a représenté dans la psyché française Belmondo, c'est-à-dire le grand frère, le père, le grand-père idéal.
Oui, c'est tout à fait vrai. Gabin dans l'après-guerre. Hein,
le grand héros populaire,
et
en fait.
C'est la figure majeure, masculine, paternelle. En revenant en France, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il va jouer essentiellement, sinon systématiquement, des types assis, avec du pouvoir, qui veulent soit garder leur pouvoir, soit passer la main, mais contrôler la manière dont ça se passe et tout ça. Et il est le patron du cinéma populaire français. Et exactement au même moment, en 62-63, il va faire, et c'est assez admirable et intéressant en tout cas à observer, le passage de témoin aux deux nouveaux jeunes acteurs qui vont en quelque sorte prendre sa place en haut de l'affiche sur les écrans français, qui sont successivement Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, puisqu'il fait tourne deux films d'affilée à ce moment-là, tous les deux réalisés par Henri Verneuil, Un singe en hiver avec Jean-Paul Belmondo, qui exactement, c'est ça, c'est ce que raconte le film, c'est un vieux type, Monsieur l'Admiral, qui est au bout de sa vie et qui va rencontrer un jeune qui représente ce qu'il a été et avec qui il partage un dernier moment de folie, de joie, d'excès.
D'ivresse.
D'ivresse dans tous les sens du terme. Avec aussi les caractéristiques de ces personnages-là, et je pense qu'on devrait ne pas les oublier, ce sont des machos absolus. Il y a une nostalgie de l'Empire colonial français très clairement exprimée dans le film. Il y a des dimensions dont on n'est pas forcé d'être tout enthousiaste à leur égard dans ces films-là. Mais ce film est passionnant sur cette transmission, cette sorte d'adoubement du roi Gabin au prince Belmondo. Et il y aura exactement le même phénomène un an plus tard avec l'autre film de Verneuil, Mélodie en sous-sol, qui là est un film de casse, mais où le vieux gangster sur le retour, mais qui fait son dernier grand coup, Jean Gabin, est accompagné du jeune loup aux dents longues, Alain Delon, et qui là aussi lui transmet, pourrait dire ça,
son expérience,
ce relais, et il se passe quelque chose dans le cinéma français très clairement à ce moment-là.
Vous me voulez comme chef?
Oui.
Voici mes lois. Pas de meurtre. On ne s'attaque qu'aux grands. À nous autres donc, les carottes, les bleus, les dentelles, les bières et les pompons.
Pourquoi s'acharne-t-il contre moi?
Mais non, mon ami, c'est à moi qu'il en veut.
En ce moment, on roule vers le roi l'ambassade du Grand Turc. On y porte deux diamants. C'est vous qui les aurez.
Comment ferez-vous?
Un extrait de Cartouche en 62 où Jean-Paul Belmondo joue un bandit au grand cœur face à son amoureuse Claudia Cardinal. Alors, ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'il joue un marlot au grand cœur, un voyou au grand cœur. Là, c'est un bandit au grand cœur. Mais c'est un peu comme ça qu'il va conquérir le cœur des Français et puis devenir le bébel national qu'on pleure aujourd'hui.
C'est la première fois qu'il endosse cette position, cette figure bondissante, de cascade, de ce qui rentrait à l'époque dans le genre du film de cap et d'épée, mais il va la reconfigurer, y compris pour jouer dans des films de gangsters ou des choses comme ça, mais qui vient de cette idée du héros, du capitaine fracasse, de Fanfan la Tulipe, du bossu, etc. Ce héros bondissant avec à la fois une réplique drôle et percutante et la capacité de faire des cascades. Et avec Philippe de Broca, qu'il a rencontré chez Godard, de Broca était assistant chez Godard, mais qui commence comme réalisateur, il commence avec Cartouche à construire ce personnage. Et c'est la même année que Un singe en hiver, et donc il y a à la fois la transmission, disons, d'un héritage d'un certain cinéma français au long cours, dont Gabin était la figure dominante, et l'irruption de ce personnage, qui vient aussi d'une tradition française, hein, puisque le cinéma de cap et d'épée est très lié à une histoire de France, tout à fait fantaisiste d'ailleurs, mais qui a marqué les esprits, mais aussi du cinéma américain, du cinéma d'action américain, et il fusionne physiquement, et puis dans sa voix, dans son regard, dans ses sourires, tous ses apports simultanément. Et Cartouche, auquel va succéder L'Homme de Rio, qui est une sorte de cartouche contemporain, mais exotique au Brésil, pour une part importante, devient cette nouvelle figure qu'ensuite il va décliner pendant les décennies suivantes.
Oui, et c'est intéressant que vous mentionniez le cinéma américain, Jean-Michel Frodon, parce que précédemment vous parliez aussi des faits générationnels. On est dans les années 60, où notamment en France, on est fasciné, la jeunesse est fascinée par ce qui se passe aux États-Unis, et Jean-Paul Belmondo... Alors, je ne sais pas si c'était le cas d'acteurs du cinéma d'avant-guerre, on va dire, mais enfin, Jean-Paul Belmondo a la... Je ne sais pas si on peut parler de carrure, mais enfin, de physique, c'est un boxeur, c'est un sportif. Il commence, lui, à faire aussi ses cascades. Donc, il a un côté, finalement, très français et américain.
Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'avaient écrit les jeunes critiques des Cahiers du cinéma, dont Jean-Luc Godard, pendant la décennie précédente, qui disait « on ne veut plus voir ces acteurs français qui sortent du théâtre, qui sont empesés, qui portent le poids d'une culture vieillissante ». Et ces jeunes critiques aimaient Gary Cooper, aimaient John Wayne, aimaient Humphrey Bogart, aimaient James Stewart, justement parce qu'ils avaient une forme d'énergie, une forme d'intensité physique et qui a à voir, ça peut être aussi bien avec l'humour qu'avec le drame, mais avec une forme de mobilité qui séduisait donc ces jeunes critiques. Et c'est pas un hasard que Godard voit ça. Hein. Godard critique un film dans lequel joue Belmondo quelques années avant à bout de souffle, en disant le film est archi nul, mais dedans il y a un type incroyable. C'est-à-dire qu'il voit, un corps, il voit un visage, il voit une gestuelle, il voit des rythmes qui viennent d'une autre époque. Il les identifie très bien. C'est ce qu'il va vouloir utiliser, puisque quand Godard fait venir Belmondo, il fait venir un inconnu absolu. C'est-à-dire que aussi, du côté de Godard, c'est un choix courageux et il y a une vista tout à fait remarquable. Et nous savons aujourd'hui, bien des années après, qu'effectivement, Belmondo est porteur de cette énergie générationnelle, on pourrait dire, qui est très marquée par le cinéma américain, par le rock'n'roll, par un rapport au monde, par le fait d'être plus habillé pareil. On va être vite avec des t-shirts plutôt que des chemises-cravates. Et dans notre rapport à la façon de se comporter dans le quotidien, dont il est une traduction dans sa présence physique.
Et effectivement, les années 70-80, alors on n'est plus du tout chez Godard, mais il ne tourne quasiment que des énormes succès commerciaux. Hein. Vous parliez de l'homme de Rio, mais il y a l'animal de Claude Zidi, le guignolo de Lautner. Enfin voilà, on pourrait en citer énormément. Alors effectivement, on n'est pas dans le haut du panier du cinéma français, mais au moment de L'As des As, par exemple, de Gérard Houry en 82, il incarne quoi ? C'est un peu le roi du cinéma français, non ?
Oui, mais il me semble que à ce moment-là, en 82, qui est un peu la dernière décennie importante de sa carrière, il va tourner encore des films après la fin des années 80, mais l'essentiel de sa carrière, pour pas dire davantage, est derrière lui. Après ce moment-là, il incarne une forme de puissance. On se souvient peut-être qu'il y a eu une polémique au moment de L'As des As, qui occupait tous les écrans français et qui a été réputé avoir coulé un magnifique film qui s'appelle Une chambre en ville de Jacques Demy. Et une partie de la critique avait dit ça suffit que ces quelques très gros films occupent la totalité des écrans, il faut plus de diversité. À ce moment-là, Belmondo n'est plus du côté de la diversité, mais plus du côté de l'aventure. Il a pris des risques, on le répète, et c'est vrai, même si c'est vrai que dans une certaine limite physique en faisant ses cascades, artistiquement, cinématographiquement, la dernière fois qu'il aura pris des risques, c'est en 1974, avec Stavisky d'Alla René, là, qui est probablement un malentendu, mais un beau malentendu, et qui sert le film à l'arrivée. C'est-à-dire que...
Il est coproducteur du film.
Il est coproducteur du film, à un moment où la carrière de René est dans les bas-fonds. Il a eu des échecs commerciaux et il n'arrive plus à faire les films qu'il veut. Et grâce à Belmondo, donc il faut saluer ça, il va pouvoir faire cette évocation d'une sorte de héros escroc spectaculaire des années 30, Stavisky, hein, qui est un personnage historique qui a existé. Il y a entre la faconde de Belmondo et la critique de cette faconde qui est au service de l'escroquerie et des escroqueries qui vont ruiner des gens, enfin qui auront des conséquences graves et qui est le sujet du film de René, une sorte de jeu un peu trouble, mais dont on peut dire néanmoins que Belmondo a accompagné encore une fois, pour la dernière fois, donc on est en 74, une aventure de cinéma qui allait dans une direction pas entièrement convenue et qui ne répète pas des formules comme l'essentiel des films qu'il va faire ensuite. Jusqu'à, on peut dire, Itinéraire d'un enfant gâté, qui est un film un peu à part à la fin des années 80.
Et qui est un peu son dernier grand succès commercial. On est en 88, il a 55 ans et c'est un peu la fin de sa carrière, non, Jean-Michel Frodon ?
Alors, succès commercial, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais il y en aura encore, parce que il y a une espèce d'effet de continuité, comme une traînée Belmondo qui continue d'être active, qui est entretenue par le fait que les films avec Belmondo passent très souvent à la télé, donc qui entretiennent l'attention et la popularité de Belmondo. Et c'est ce qu'on voit également en ce moment à l'occasion de sa disparition, qui font qu'il y aura encore quelques films qui auront un certain succès, mais c'est un film où Claude Lelouch, qui a beaucoup, beaucoup d'affection pour Belmondo, construit une sorte d'évocation un peu mélancolique d'un monsieur au bout de sa carrière. On pourrait dire qu'il fait écho au Gabin dont on a vu...
Oui, c'est ça, parce que c'est un aventurier qui fait une sorte de passage de témoin à Richard Anconina.
Richard Anconina, absolument. Et c'est assez comparable. Alors, Richard Anconina ne deviendra pas le Belmondo d'après. Et c'est intéressant, parce que ça veut dire que le cinéma français a changé, parce que personne d'autre ne deviendra le Belmondo
d'après. Non, mais par exemple, des acteurs comme Jean Dujardin ou Gilles Lelouch, surtout Jean Dujardin, se réclament de l'héritage de Belmondo.
Alors, il est possible, c'est une question à réfléchir, que on ait affaire maintenant, après une période un peu longue, à une sorte de restauration d'un certain rapport au cinéma qui a existé à ce moment-là et que Dujardin en soit l'incarnation, tout à fait, après un moment où la grande figure nationale, le successeur en termes de popularité et d'importance dans le cinéma, c'est Gérard Depardieu, c'est-à-dire quelqu'un d'une complexité, d'une diversité, même d'une façon de jouer, la présence physique, etc., infiniment plus complexe, infiniment plus perturbante, y compris dans ses choix beaucoup plus divers et qui vont rester divers. Belmondo a fait des choix divers pendant quelques années, puis il a fait toujours le même choix, on pourrait dire. Et alors que Depardieu, non. Il continue à être et dans des comédies populaires et dans des films très bizarres, très étranges, où il se met en danger, où on ne sait pas ce qu'il va faire dans le plan d'après. C'est tout à fait différent. Dujardin, je pense qu'il hérite des deux et qu'il essaye d'inventer, hein, c'est compliqué, je le dis sans ironie et encore moins sans condescendance, mais il essaye d'inventer, qu'est-ce qu'on fait avec ça si on veut être à la fois un grand acteur populaire aujourd'hui et hériter de cette histoire qui s'est complexifiée et qui s'est beaucoup complexifiée avec Gérard Depardieu.
Merci Jean-Michel Frodon. On peut lire votre portrait de Jean-Paul Belmondo sur le quotidien en ligne Slate. Restez avec nous puisque nous allons parler de la Mostra de Venise dont vous rentrez vous-même. Mais pour l'heure, on va en parler avec Sophie Torlotin.
Al fine di rispettare il protocollo anti-Covid-19, vi ricordiamo che è necessario tenere la mascherina anche durante la proiezione e restare seduti al posto assegnato.
Ce que vous entendez là, hein, c'est la musique qui accompagne un petit film animé qui précède toutes les projections de la sélection de Venise. Alors, un mot sur l'ambiance quand même pour commencer. La Mostra inaugurée l'an dernier, vous le savez Elisabeth, puisque vous y étiez. La première tenue d'un festival international sous Covid, avec des salles à 50% remplies, donc un siège sur deux. Hein, des préinscriptions obligatoires avant chaque projection pour éviter les files d'attente. Donc, rebolote cette année, avec toutefois plus d'accrédités. 9 000, en temps normal c'est 12 000, mais alors l'organisation au cordeau, et puis alors, moi ce qui m'a franchement frappé, je sais pas Jean-Michel si vous êtes d'accord, moi j'ai trouvé que la sélection et notamment donc la compétition cette année n'avait pas forcément à envier à celle de Cannes. En tout cas, j'ai trouvé que cette édition 2021 est vraiment de bonne tenue. C'est d'ailleurs ce que m'a dit le délégué général Alberto Barbera. Il craignait d'avoir du mal à trouver des films de qualité, d'autant que Cannes s'est montré particulièrement hégémonique cette année. Et bien, finalement, Venise a pu attirer de grands noms, donc Jane Campion, Pablo Larraine, hors compétition Denis Villeneuve avec Dune, ou Ridley Scott avec Le Dernier Duel, donc des films très attendus.
Bah, c'est bizarre parce qu'au début, j'étais plutôt préoccupé de retrouver une situation compliquée, moins de films, la qualité pas géniale et tout ça. C'était le contraire. Tout le monde a essayé de faire un film pendant le deuxième lockdown, ce qui, même dans des conditions très difficiles. Donc on a vu beaucoup de films, et la surprise, c'était que la qualité est vraiment très très haut, plus que d'habitude. Donc on a une sélection cette année qui est vraiment la plus forte par rapport aux derniers 10 ans, je pense. Bon, le cinéma est vivant, il y a une vraie envie de recommencer et la qualité vraiment est là.
Et la Mostra confirme, enfin, ce qui est déjà depuis plusieurs années, le fait que vous êtes un peu, enfin, le festival est un peu la rampe de lancement pour les films américains à gros budget de qualité, et notamment en compétition. On va voir Jane Campion, le nouveau film de Pablo Larraine, hors compétition Dune. Et il y a des films parmi ces sélections, des films qui sont sur des plateformes, Netflix, Amazon, c'est aussi ça, un atout de la Mostra par rapport à d'autres, je pense à Cannes, hein, qui par ses contractuellement n'accepte pas en compétition les films des plateformes.
Oui, mais c'est le seul festival Cannes qui n'accepte pas les films des plateformes en compétition. La plupart des festivals, Berlin, Locarno, Saint-Sébastien, Venise évidemment, on n'a pas de préjudice. On sait que les plateformes sont devenues et sont en train de devenir parmi les plus grands producteurs des nouveaux films, parce qu'ils ont besoin d'avoir des nouveaux contenus chaque semaine à proposer aux spectateurs, et donc on ne peut pas passer à côté de ça. La plus grande partie des cinémas d'auteur d'aujourd'hui est produit ou acheté par les plateformes. Donc je ne vois pas comment on peut éviter de montrer des films de plateforme. C'est vrai que la situation en France est compliquée parce qu'il y a une loi, il y a les problèmes des fenêtres qui n'existent plus, presque plus ailleurs. Donc nous, on n'est pas confronté aux mêmes règles qui gèrent les marchés du cinéma en France.
Puis l'un des événements, enfin je le disais un peu, c'est Dune. Ouais, ouais. Dune qui est attendue depuis tellement longtemps, et c'est vous, enfin c'est la Mostra qui le présente en avant, enfin la première mondiale.
Bah nous on a un très bon rapport avec tous les studios à Hollywood. Venise, c'est au début de la nouvelle saison, à septembre. Ça veut dire que la plupart des films qui sortent à l'automne et qui ont envie de faire la course pour les Oscars, ils profitent de la plateforme de Venise pour faire la promotion. Et c'est là qu'ils commencent la course.
Et oui, les Américains qui désormais passent par Venise dans leur campagne pré-Oscar. Sophie, c'est ce soir que le jury décernera le Lion d'Or, jury présidé par le cinéaste coréen Bong Joon-ho. Alors, sans vous livrer au jeu des pronostics si périlleux, vous aimeriez voir votre top 3, par exemple?
Alors, mon top 3, bah, finalement, c'était pas si facile d'établir un top 3, enfin, en tout cas, dans les films que j'ai vus. Moi, j'ai beaucoup...
Après, on va le demander à Jean-Michel.
Bah, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup aimé Illusion perdue de Xavier Giannoli. C'est son adaptation du chef-d'œuvre de Balzac qui se passe au début du 19e siècle. On est en 1820 à Paris, un jeune provincial un peu naïf et ambitieux qui est joué par Benjamin Voisin, qui a vraiment son premier grand rôle, qui monte à Paris, va découvrir le monde de la presse, des journaux en pleine ébullition. Alors c'est vraiment une description, une satire, mais enfin assez féroce du milieu de la presse, qui fait totalement écho à tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les polémiques, la télévision, l'influence des réseaux sociaux. On est 200 ans avant, mais il y a tout à fait évidemment un effet miroir très intéressant. Et au-delà, c'est vraiment une sorte de critique du capitalisme. Franchement, j'ai trouvé le cast, enfin les acteurs étaient très très bien choisis. Il y a par exemple Xavier Dolan, dans un rôle secondaire et que ça ne sentait pas la naphtaline. C'était vraiment une reconstitution extrêmement vivante et bien vue. Le deuxième film, moi, qui m'a marqué, c'est une comédie qui s'intitule Compétition officielle des Argentins Mariano Cohen et Gaston Duprat avec Penelope Cruz et Antonio Banderas qui est irrésistible. C'est un film sur le cinéma, en fait, sur la préparation d'un film, et on voit deux comédiens qui n'ont pas du tout la même culture et qui s'affrontent. C'est également féroce et très jouissif, jubilatoire et extrêmement drôle. Et puis, alors, moins pour le film que pour la prestation d'Olivia Colman, moi je retiens The Last Daughter de Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, la fille perdue. Pour l'interprétation d'Olivia Colman, qui joue une mère qui se retourne sur son passé à l'occasion de vacances, donc il y a des flashbacks. Ou alors Kristen Stewart, qui pourrait rafler la Coupe Volpi de la meilleure actrice pour son interprétation à la fois incarnée, très personnelle, pas du tout dans l'imitation de Lady Di dans Spencer, Pablo Larraine. 3 jours décisifs avant la séparation du couple formé par Lady Di et son mari Charles. Non, franchement, cette compétition, de ce que j'en ai vu, évidemment, puisque je ne suis restée que 6 jours, je l'ai trouvé vraiment très... très de haut niveau.
Pour vous aussi, c'était une compétition de haut niveau, Jean-Michel Frodon ?
Alors, moi, les circonstances ont fait que j'ai plutôt musardé dans les autres sections que dans la compétition officielle, et que je ne suis pas resté non plus très longtemps, donc je ne peux pas avoir un point de vue vraiment général. Mais nous avons vu, outre que j'ai entièrement confiance dans l'opinion de Sophie Torlotin, nous avons vu des choses de grande qualité, comme Alberto Barbera le disait. La première conclusion, c'est que le cinéma est capable de nous offrir un nombre de films considérable. Là, on a parlé essentiellement des films les plus attendus, qui sont des films américains, des productions hollywoodiennes, mais il y avait venu du monde entier, vraiment un très grand nombre de propositions très riches, très diverses, avec des manques dans un certain nombre de parties du monde, notamment l'Asie n'était pas aussi bien représentée qu'elle a pu l'être à d'autres années, et y compris où Venise, qui a joué un rôle si important dans la découverte des cinémas asiatiques par le passé, et j'espère sûrement qu'il pourra le faire à nouveau. Ça, c'était pas le cas cette année, mais on a eu des rencontres heureuses avec les films plutôt attendus, ce que Sophie a mentionné, et des rencontres heureuses avec des choses éventuellement moins prévisibles, un peu plus dans les marges, mais des marges tout à fait dignes d'intérêt.
Citez-nous un film.
Alors, je vais en citer deux.
C'est difficile. Moi,
je suis assez réservé le plus souvent sur ce que nous offre le cinéma italien depuis ces dernières années. Et là, il y avait deux très beaux films italiens. Un film assez radical, mais d'une beauté sublime et d'une grande étrangeté, qui s'appelle Il Buco, c'est-à-dire le gouffre, de Framartino, qui est une plongée ça reconstitue une expérience spéléologique, mais c'est une plongée sous terre d'une sorte de puissance onirique tout à fait extraordinaire. Et l'autre, de Leonardo Di Costanzo, qui s'appelle Aria Ferma en italien, j'espère qu'on va lui trouver un titre français, et qui se passe, alors c'est un huis clos aussi, mais très différent, dans une prison, avec un jeu entre deux acteurs. C'est pas un affrontement entre acteurs, contrairement à ce qu'on met en place souvent dans ces cas-là, mais au contraire une sorte de ping-pong extrêmement subtil entre un gardien de prison et un des prisonniers, dans une situation qui est tout à fait particulière, où la prison aurait dû être évacuée, puis il y a 12 prisonniers et quelques gardiens qui restent isolés dans ce immense lieu désert, avec deux des plus grands acteurs italiens contemporains, et cette intelligence d'un combat où rien n'advient explicitement et tout se joue dans de la suggestion est tout à fait remarquable. Mais on a vu des films, notamment un film mexicain tout à fait intéressant, un film égyptien tout à fait intéressant, un film libanais également. Donc le monde était présent, pas seulement l'Amérique et la France qu'a évoqué Sophie et l'Italie dont j'ai parlé, de manière très réelle à Venise.
Thank you.
pause musicale avant de parler du Fest Paco et de partir à Ouagadougou. Avant, on écoute José Carlos Schwartz et son groupe Cobiana Jazz.
Et on
on termine cette émission au Burkina Faso, à Ouagadougou. A eu lieu cette semaine la conférence de presse du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma. En ligne avec nous, Alex Moussa Sawadogo, son nouveau délégué général. Bonjour.
Bonjour.
Le FESPACO 2021 se déroulera cette année du 16 au 23 octobre. Hein, grande nouvelle, puisque cette édition 2021 a failli ne jamais voir le jour à cause de l'épidémie de Covid. J'imagine qu'il y a eu des moments de découragement, pour ne pas dire de désespoir. Aujourd'hui, vous vous sentez comment ? C'est un miracle que le FESPACO puisse avoir lieu ?
Je peux dire tout simplement que c'est un petit miracle qui est en train de prendre forme, parce que après le report du mois de février, on était tous prudents parce qu'on ne savait pas comment allait se dérouler, disons, cette situation sanitaire et pas mal de choses. Mais je suis très content qu'aujourd'hui, les autorités du Burkina Faso, la délégation du général du FESPACO est vraiment prête pour pouvoir, réaliser cette 27e édition qui est beaucoup attendue.
Vous vous sentez comment à l'approche de cette édition ?
Je suis serein en ce sens que au sein de mon équipe, j'ai des personnes outillées, j'ai des professionnels. Je suis serein parce que on vient de proclamer aussi la sélection. On est très content d'avoir cette belle sélection. Je suis serein aussi en ce sens que cette 27e édition, c'est une édition vraiment qui est spéciale parce que ça se fait sous des conditions qui sont vraiment très difficiles pour les professionnels, pour la population et surtout pour les Burkinabés aussi qui attendent vraiment cette grande fête parce que je crois que ça risque d'être la plus grande manifestation du continent africain, pour ne pas dire pas post-Covid, mais avec cette situation sanitaire.
Donc la grande fête du cinéma aura bien lieu ?
Oui, c'est ça, la grande fête aura lieu et nous travaillons d'arrache-pied afin que la fête soit belle.
C'est votre première édition en tant que délégué général du FESPACO. Cette nouvelle fonction, comment vous l'avez abordée ?
Ouais, la preuve en est que Elisabeth, tu m'appelles toujours Alex, tu m'appelles pas le DG, tu m'appelles toujours Alex, je suis resté toujours le même Alex. En même temps, c'est une fierté aussi, c'est une grosse responsabilité d'abord et d'accepter ce challenge-là.
Que peut-on dire de cette compétition 2021 ?
Ouais, c'est une compétition acharnée parce que nous sommes partis dès le début pour avoir 15 films au niveau de la compétition officielle. Nous nous sommes retrouvés avec 17 films. Nous sommes contents de voir aussi qu'il y a des grands retours dans cette compétition. Je prends le cas de Aoun qui revient avec son film Lingui, tête comme Kadar Ahmed de la Somalie avec son film La femme du fossoyeur. Et nous sommes contents justement aussi de voir des films d'Angola, qui revient avec Air Conditionnel que vous connaissez certainement très bien aussi. Et à ce niveau, on se disait qu'on allait avoir moins de films avec la situation sanitaire, mais non, c'était quasi le contraire. On était, le comité de sélection que nous avons mis en place était vraiment très surpris de voir des films de très belle qualité.
Donc Alex Moussa Sawadogo, est-ce qu'on peut dire que c'est un reboot pour le FESPACO ou en tout cas pour sa compétition ?
Oui, absolument, on peut le dire. Donc pour le moment, je pense que sur le plan des invités, quelle que soit l'image, pour ne pas dire la question sécuritaire dont se posent de nombreux professionnels, nombreux sont les invités qui répondent, les hôtels commencent à être remplis. Et nous espérons bien qu'au soir du 16 octobre, ils seront tous là à Ouagadougou pour fêter la 27e édition.
Merci à vous Alex Moussa Sawadogo. Bonne préparation pour ces derniers mètres du FESPACO 2021. Merci à Sidiki Bakaba et à Jean-Michel Frodon. On peut conseiller la lecture de votre livre « Le cinéma français de la nouvelle vague à nos jours » aux éditions des Cahiers du cinéma. Et puis on signale aussi la sortie aux éditions CNRS de votre nouvel essai « Le cinéma à l'épreuve du divers ».« Le cinéma à l'épreuve du divers ». Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Lequéré. À la réalisation cette semaine, Jérémy Boucher et Fanny Renard.
Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma, avec notre invité, l'Israélien Nadav Lapid, pour parler de son film Le genou d'Ahed.
Tous les cinémas du monde. Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.